Et vous avez évoqué les joyaux de la République, avec notamment les propriétés immobilières. Eh bien, on va parler des propriétés immobilières des Français, notamment, puisqu'il va être question en compagnie de nos deux invités, de Xavier Thimbault, économiste, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, et de Luc Arondel. Bonjour. Luc Arondel, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et professeur associé à l'École d'économie de Paris. Lorsqu'il est question à la fois du pouvoir d'achat et du patrimoine, on a envie de connaître à la fois l'évolution de ces deux données et également la manière dont les inégalités se profilent à l'horizon, avec dans le patrimoine un élément constitutif qui est celui donc de la résidence pour ceux qui en sont propriétaires et des évolutions précises de la valeur donc de ce patrimoine. Alors lorsqu'on découvre le patrimoine des Français, on s'aperçoit que le patrimoine net médian, vous allez d'ailleurs nous définir ce que cela signifie, s'élève à 114 000 euros en France. Qu'est-ce que ça signifie et comment ce patrimoine évolue-t-il, Luc Arondel ?
Alors le patrimoine médian, c'est une sorte d'équateur statistique qui sépare la population en deux groupes. Vous avez la moitié de la population qui dispose d'un patrimoine inférieur à cette valeur médiane que vous avez située à 115 000 euros, ce qui est exact, et puis la moitié de la population qui possède un patrimoine au-delà de ce chiffre, 115 000 euros.
Net, ça veut dire...
Alors net, c'est vous enlever l'encours des dettes. L'encours des dettes, hein, pas les charges en intérêt qui sont considérées comme de la consommation.
Et c'est important puisque ça signifie que si vous avez acheté, par exemple, un appartement et que vous avez encore un prêt, eh bien, vous devez le déduire. Ouais. Si on prend ce chiffre, comment évolue-t-il dans le temps, Luc Arondel ?
Alors, dans le temps, il évolue pas. Il faut pas se situer au niveau de la médiane pour que ça bouge beaucoup. Ce qu'il faut regarder, c'est là... Tout l'apport des travaux de Piketty, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au-delà. C'est-à-dire, justement, vous avez situé la médiane. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder le décile ou le centile supérieur. C'est-à-dire que, au lieu de regarder de séparer la population en deux groupes, hein, vous faites donc les 90% les plus pauvres contre les 10% les plus riches, ou bien les 99% les plus pauvres et les 1% les plus riches.
Et c'est là qu'on voit.
Ben, ce qu'on a vu, et c'est ce qu'ont mis en évidence les travaux de Piketty, c'est que c'est la part des 10% et des 1% les plus riches, tu vois, dans la distribution des richesses, n'avait cessé de diminuer depuis 1910, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 60. Et on voit, effectivement, il y a eu un inversement de la tendance de la courbe, c'est-à-dire que sa tendance a augmenté, notamment à partir des années 80, à partir des années Thatcher et Reagan, quoi. Surtout aux États-Unis et aussi en France, aux États-Unis. C'est un phénomène un peu général.
Est-ce qu'on peut chiffrer cela ? Est-ce qu'on peut dire à partir de quand on est, par exemple, dans les 10% qui ont le patrimoine le plus important en France ?
Bien sûr, 10%. Alors là, il faut, bon, c'est d'autres sources, mais 10% pour faire partie du décile le plus riche, des 10%, il faut à peu près 600 000 euros de patrimoine brut. Donc vous enlevez les dettes, ça fait à peu près un peu plus de 500 000 euros, c'est ça, 10%. Et 1%, il faut multiplier par 4 à peu près. Donc vous arrivez à 2 millions, 2,5 millions.
Et si on voulait essayer de faire le même calcul en termes de revenus, est-ce que ce serait possible, Xavier Thimbault, à la fois donc la médiane des revenus en France, et puis est-ce que là aussi il est intéressant de considérer à la fois le dernier décil, donc les 10% des Français les mieux rémunérés, est-ce que ça a un sens économiquement ?
Oui, bien sûr, ça a un sens. On peut faire ces mêmes comparaisons. On obtient des chiffres qui sont moins spectaculaires que pour le patrimoine. Alors, bon, sachant que c'est des flux, donc c'est chaque année. Voilà. Alors, en gros, le revenu médian tel qu'il est déterminé par l'INSEE. Alors, l'INSEE le calcule par unité de consommation. Donc, on tient compte.
Unité de consommation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un ménage que on est affaire à un célibataire, deux personnes avec trois enfants.
Voilà, on tient compte dans les unités de consommation des économies que vous faites à vivre ensemble. Le fait que quand vous vivez à deux, vous avez besoin que d'une seule salle de bain et pas de deux salles de bain. Et donc, on va compter quand vous êtes célibataire 1, et quand vous êtes deux adultes, on va compter 1,5. Et si c'est deux adultes avec deux enfants, par exemple, ben on ne va pas compter 1,5, mais on va compter 2,1 en incluant les deux enfants. Donc, quand on compte les unités de consommation, le revenu médian en France, il est un peu supérieur à 20 000 euros par an, ce qui correspond à un revenu pour une famille avec deux adultes, deux enfants. En gros, un revenu un peu supérieur à 40 000 euros par an.
Donc, ce qui fait 1500 et 3000 euros, 1500 pour 20 000 euros par an, je faisais une division par 12.
Voilà, exactement.
Et le double, c'est-à-dire 3000 euros.
Donc, on est un petit peu au-dessus de 3000 euros par mois pour une famille avec deux enfants. Ça, ça vous donne le revenu médian. Si on s'intéresse au revenu du dernier décile, on a un revenu qui est de l'ordre de 70 000 euros par unité de consommation. Donc notre même famille avec deux enfants, elle a un revenu qui est de l'ordre de 150 000 euros par an, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 10 000 euros par mois, 11 000 euros par
mois.
C'est
quand même 6 fois plus.
Et donc c'est 6 fois plus, et donc c'est effectivement une...
6 fois plus, ce qui signifie qu'on est dans des proportions qui sont effectivement considérables par rapport au chiffre de patrimoine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un parallélisme entre les inégalités de revenus en France, les inégalités de patrimoine?
Alors, il y a un parallélisme qui est lié au fait que plus vous avez de revenus, plus vous épargnez. Ça, c'est une espèce de mécanique infernale. Et puis, il y a une autre mécanique infernale en France qui est que plus vous... Enfin, quand vous pouvez devenir propriétaire, donc quand vous avez accès à l'emprunt, et ça, c'est la moitié la plus riche, ou les 40% les plus riches qui ont accès, et plus vous pouvez emprunter, plus vous empruntez dans des endroits où il va y avoir des augmentations des prix immobiliers. C'est-à-dire, quand vous achetez un appartement à Paris, vous pourrez bénéficier d'une plus-value immobilière que vous n'aurez pas quand vous achetez un appartement à Aulnay-sous-Bois.
Luc Arondel, quelle est la part de l'immobilier dans le patrimoine des Français ?
Alors, ça a évolué au cours du temps. Hein. C'est-à-dire que si on regarde, il y a 20 ans, c'était à peu près moitié-moitié. Et là, donc, compte tenu de l'évolution des prix immobiliers et puis aussi de la construction des logements neufs, aujourd'hui c'est à peu près 60-40, deux tiers, un tiers. Donc vous avez deux tiers d'immobilier et un tiers de financiers.
Et il y a également de fortes disparités géographiques, ce qui veut dire que dans la constitution donc de ce patrimoine, puisque encore une fois, le logement c'est un bien qui est substituable, c'est-à-dire que si on habite dans un endroit très onéreux ou bien au contraire dans un endroit très bon marché, on a un logement du point de vue statistique, du point de vue patrimonial, c'est pas du tout la même chose.
J'ai pas compris votre question.
Si on habite dans un endroit onéreux ou si on habite...
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de propriétaires à Paris, par exemple. Donc, effectivement, c'est des fois substitué par de la résidence secondaire, mais pas toujours. Donc, effectivement. Et après, au niveau de la valeur du patrimoine, la valorisation du patrimoine dépend bien sûr de l'endroit où vous êtes.
Xavier Thimbault.
Je pense que dans toutes ces mesures des revenus, des patrimoines, On parle d'argent, mais je pense qu'en fait, en parlant d'argent, on masque un petit peu une réalité et on peut être un peu perdu dans les comparaisons. En fait, ce qui est important quand on parle d'argent, c'est savoir à quoi sert cet argent, c'est-à-dire à quoi ça sert d'être riche. Donc ça vous sert à consommer plus, à consommer différemment, à consommer mieux. Mais par exemple, quand on parle d'inégalité de patrimoine, le fait qu'il y ait des inégalités de patrimoine, c'est associé au fait qu'il y a des endroits où certains ne peuvent pas habiter. Vous voyez, et derrière les inégalités de patrimoine, il y a en fait de l'entre-soi et de la ségrégation géographique. C'est-à-dire que le patrimoine et l'accès au patrimoine, donc votre capacité à pouvoir entrer dans le marché immobilier parce que vous pouvez emprunter et payer des sommes considérables au mètre carré, ça va être aussi le moyen pour vous, le levier pour vous, de vous mettre avec des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent, donc d'accéder par exemple à de la sécurité, d'accéder à des équipements publics,
à de l'employabilité, puisqu'il y a certains lieux où il est évidemment plus compliqué de trouver du travail,
ou en tout cas à des temps de transport qui seront beaucoup plus faibles, donc un confort de vie qui sera bien plus important. Et puis surtout, et ça c'est un élément essentiel dans le choix de localisation géographique, d'accéder à des écoles. Et ce faisant, vous voyez, ça vous permet à la fois d'accéder à des écoles, mais aussi d'empêcher que d'autres accèdent aux écoles où vous voulez aller. Et ça, ça permet de provoquer la ségrégation scolaire, de mettre les enfants de bonne famille avec les enfants de bonne famille et de concentrer sur eux une meilleure éducation que sur les enfants des classes sociales plus défavorisées. Et c'est aussi un moyen de faire en sorte que vos enfants seront dans la même classe sociale que vous. Donc c'est un moyen de reproduire les inégalités sociales. Et il y a ce lien entre l'immobilier, l'école, l'entre-soi, les modes de vie qui est extrêmement important et qui est très caractéristique de la situation française.
Alors justement, par rapport à ça, Lucas Rondel, il n'y a pas seulement les chanteurs qui ont des testaments, il y a aussi
à peu près tous
les individus. La part donc des patrimoines et des inégalités de patrimoine qui sont provoquées par l'héritage, puisque il y a évidemment un parallélisme entre le revenu des individus et le patrimoine qu'ils constituent, mais ce parallélisme, il est biaisé par le fait que certains deviennent riches par héritage et évidemment il y a des disparités qui sont reproduites à partir de là. Est-ce important en France? Comment considérer la manière dont le patrimoine des individus s'hérite?
Alors ça, c'est une question qui est un peu ancienne, c'est de savoir, c'est de mesurer la part du patrimoine hérité dans l'accumulation globale, c'est-à-dire dans votre patrimoine. Comment on peut expliquer ce que vous possédez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez hérité ou ce que vous avez épargné, quoi. Et ça, c'est aussi, il y a une tendance qui s'est un peu inversée, c'est-à-dire que jusqu'aux années 60, 80, effectivement, on voyait cette part du patrimoine, l'importance de cet héritage dans la constitution des patrimoines qui baissait, mais qui est en train effectivement aujourd'hui de réaugmenter. Quoi. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, on aurait l'héritage aurait de plus en plus d'importance. Ce qui remet un petit peu en cause, c'est ce que disait Xavier, c'est-à-dire l'idée un petit peu d'une société méritocratique qui serait donc où les gens seraient plus valorisés parce qu'ils accumulent par eux-mêmes.
Pourquoi l'héritage est-il de plus en plus important?
Pourquoi l'héritage est-il de plus important? C'est parce que, par exemple, vous regardez, si on reprend le cas du marché immobilier, comme le disait Xavier, c'est de plus en plus difficile d'accéder au marché du crédit. Si vous avez un collatéral, c'est quand même plus facile. Donc, effectivement, par exemple, si vous voulez devenir propriétaire à Paris, ce sera beaucoup plus facile si vous avez hérité, si vous disposez d'un collatéral pour pouvoir accéder au marché du crédit et acheter votre bien. C'est ce qu'on a vu jusqu'à... Alors, c'est en train de s'inverser. Ce qu'on a vu, par exemple, au niveau de l'immobilier, puisque vous parliez de l'immobilier, c'est-à-dire que le creusement des inégalités, il s'est fait là aussi, entre les jeunes générations et les vieilles générations. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait de moins en moins de propriétaires dans les cohortes jeunes et de plus en plus dans les cohortes un peu plus âgées. Donc il y avait de plus en plus de propriétaires dans les cohortes âgées et de moins en moins dans les cohortes jeunes.
Xavier Thimbault, est-ce que ça signifie... que pour un individu, il y a donc la question de la constitution du patrimoine. J'ai lu, par exemple, que la vraie inégalité des individus à la retraite, elle se faisait entre ceux qui étaient propriétaires de leur logement et ceux qui ne l'étaient pas.
Oui, c'est un élément, évidemment, qui va participer aux inégalités à la retraite et qui fait que ceux qui ont pu constituer ce patrimoine immobilier... Et ce qui est important, c'est que dans ce patrimoine immobilier, il n'y a pas que de l'épargne, des revenus accumulés. Il y a aussi cette plus-value réalisée sur l'immobilier, c'est qui est une forme d'enrichissement sans cause, donc qui évidemment contredit l'idée de la méritocratie. Et là, ceux-là, ils vont être bien plus protégés que ne sont ceux qui n'auront que leur retraite. Ça va contribuer aux inégalités à la retraite, évidemment. Et puis évidemment, la concentration du patrimoine à une génération va conduire à la transmission des inégalités à la génération suivante par l'héritage.
Ça signifie qu'il faut modifier la fiscalité si on souhaite une société plus égalitaire?
C'est dans les mesures, effectivement, pour lutter contre ce genre de mécanique, il y a une chose qui va complètement à contresens de ce qui est fait et qui est extrêmement peu populaire, qui serait de rétablir une taxation des héritages, parce que ça, c'est un moyen de redistribuer les cartes.
Mais ils sont déjà taxés.
Ils sont dans le mouvement historique dans tous les pays développés, c'est la baisse des taxations de l'héritage. On a exonéré les taxations. Alors en France, c'est plutôt les taxations directes, mais aujourd'hui, les seuils d'exonération sont tels que il faut avoir des patrimoines, quand vous avez deux enfants, il faut avoir un patrimoine supérieur à 700 000 ou 800 000 euros pour commencer à être taxé dans votre héritage. Donc ça veut dire que la plupart des patrimoines, 80-90% des patrimoines, en ligne directe, passeront sans taxation.
C'est aussi, je crois, le sens de la réforme fiscale de Donald Trump qui veut encore amplifier ce mouvement. Lucas Rondel, sur la taxation des patrimoines et la manière dont l'héritage aujourd'hui est moins taxé qu'auparavant.
Oui, alors ça c'est une tendance générale. Il n'y a plus, par exemple, de taxation sur les successions en Italie. Il n'y en a plus en Suède. C'est une tendance aussi qui va s'accentuer aux États-Unis. En France, il y a encore une taxation, mais c'est vrai que de toute façon la taxation elle joue sur la part héritée. Donc effectivement, avec les systèmes des abattements, ça se traduit par le fait qu'il y a très peu de successions qui sont déjà taxées aujourd'hui. Hein. Il y en a assez peu. Donc, et ça, je pense que c'est vrai que ça rebondit un peu sur votre question, c'est-à-dire que si on veut pas effectivement que l'héritage représente trop une part trop importante dans l'accumulation des richesses, bon, là, il va falloir réfléchir sur justement le statut de cette fiscalité.
Oui. L'ISF, quelle est son incidence? Alors, on a vu qu'il y avait une réforme de l'ISF en France, celle-ci donc concerne aujourd'hui les biens immobiliers uniquement. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence?
Alors, l'ISF, c'est un impôt compliqué qui a subi en 2012 avec François Hollande une réforme qu'il a un peu assassinée d'une certaine façon, parce que François Hollande avait porté les taux d'imposition de l'ISF à des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Alors, pourquoi extrêmement élevés? Parce que marginalement, c'est-à-dire pour les patrimoines les plus importants, on taxait à 1,7% le patrimoine, à une époque où le rendement sur votre patrimoine pouvait être de 2%, voire même inférieur à 2%. Et donc, quand vous taxez 1,7% de quelque chose qui vous rapporte moins de 2% par an, vous pourrez arriver à des taux de taxation qui sont supérieurs à 100% par rapport aux revenus du patrimoine. C'est apparu confiscatoire et ça a conduit finalement à la réforme qu'a proposée Emmanuel Macron.
Mais qui concerne la modification des taux ?
Qui concerne en fait la suppression de l'impôt sur la fortune sur la partie financière du patrimoine, mais qui était celle qui vous conduisait dans les plus hauts niveaux de taxation. Et donc aujourd'hui, c'est uniquement sur le patrimoine immobilier, sachant que la résidence principale, elle subit un abattement, il y a 30% d'abattement sur la résidence principale, et que le seuil est assez élevé, ce qui fait que, bon, à moins d'avoir vraiment un patrimoine immobilier considérable, vous réduisez aussi de façon très importante l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune immobilière va rapporter de l'ordre de 800 millions d'euros, 700 millions d'euros, contre les 4 milliards de l'ISF auparavant.
Donc il va rapporter moins.
Ah, beaucoup moins. Beaucoup moins.
Oui, non, si on essaie d'expliquer les inégalités, par exemple, les inégalités de patrimoine se font beaucoup plus sur le financier, le patrimoine professionnel, que sur le patrimoine immobilier. Hein, alors, effectivement, il y a d'autres objectifs. On peut parler effectivement d'efficacité économique, essayer d'orienter l'épargne vers des supports plus risqués, financiers plus risqués que de l'immobilier. Ça, c'est aussi, ça procède aussi de cette discussion. Mais effectivement, aujourd'hui, De toute façon, à l'issue de cette réforme de l'ISF qui s'appelle l'IFI maintenant, ça va concerner beaucoup moins de ménages, hein, et donc est concerner une partie du patrimoine qui n'explique pas la part la plus importante des inégalités en France.
Donc vous êtes en train de dire que c'est une mauvaise réforme?
Je dis pas que c'est une mauvaise réforme, mais vous ne dites pas que
c'est une bonne.
Non, ça dépend quel est l'objectif. Si on veut réduire les inégalités, c'est certainement pas celle-là qu'il faut prendre. Après, justement, il y a toute la réflexion sur le fait que, par exemple, l'épargne des ménages est mal orientée. Elle s'oriente surtout sur de l'immobilier plutôt que sur des investissements productifs, etc. On déplore effectivement le fait que les ménages français n'investissent plus dans les actifs risqués, ne s'intéressent plus au marché boursier. Donc après, effectivement, ça procède d'une réflexion générale où effectivement on peut être amené aussi à inciter les Français à investir de manière plus risquée. Et donc à ce moment-là, c'est pas forcément incompatible avec cette réforme-là. Mais je vous dis, ça dépend quel est l'objectif qu'on a.
Xavier Timbaud.
Le point, c'est que en fait, avec les réformes qu'avait conduites François Hollande, on taxait trop le capital et ses revenus. La logique qui consiste à dire il faut moins les taxer parce que ça a des avantages économiques en termes d'incitation, aussi en termes de lutte contre l'exil fiscal, pour éviter que les personnes les plus dynamiques, les entrepreneurs, les artistes, etc., ne partent à l'étranger. Voilà, donc ça c'est probablement de ce point de vue-là justifié, même si on aurait pu en fait faire une réforme intermédiaire, c'est-à-dire réduire les taux au lieu de carrément les passer à zéro. Et puis surtout, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, on taxait le patrimoine avec l'ISF qui avait des inconvénients économiques majeurs, on le supprime, peut-être faudrait-il, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait évoqué dans sa campagne, du coup taxer plus les héritages. pour assurer l'égalité et éviter la transmission des inégalités. Or, on voit bien que ce volet-là, qui serait très important pour compenser la réforme de la suppression de l'ISF sur les valeurs financières, eh ben, n'a pas été mis en place. Et là, donc, du coup, on est en train de créer aujourd'hui en France une situation dans laquelle on va avoir un accroissement des inégalités transmises par l'héritage.
Lucas Rondel.
Oui, alors, c'est vrai, quand on regarde la masse du patrimoine au niveau national, par exemple, c'est 12 000 milliards d'euros, hein, les patrimoines des Français. Donc, c'est vrai qu'on s'interroge, on dit effectivement, on va laisser des dettes à nos enfants, mais aussi, on va leur laisser aussi une masse de patrimoine qui est relativement importante. Hein,
donc, il y a effectivement ces deux phénomènes. Des comparaisons internationales, puisqu'on a parlé donc à la fois du patrimoine des Français et de leurs revenus, Xavier Timbaud, on voit de grandes disparités en termes de pouvoir d'achat d'un pays à l'autre, par exemple aux États-Unis et en France, lorsqu'on compare les salaires, on a eu une moyenne des salaires qui est proche de 60 000 dollars par an aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, avec là aussi de profondes disparités. On a un SMIC horaire qui a été porté à 15 dollars l'heure, donc on voit qu'on est au-dessus des standards français, mais lorsqu'on a payé un certain nombre de choses qui sont payantes aux États-Unis, alors qu'elles sont gratuites en France, je pense notamment à la santé et à l'école, eh bien, qu'advient-il du pouvoir d'achat des Américains ?
Alors, le pouvoir d'achat des Américains, alors, vous avez donné des chiffres, c'est important de les avoir en tête. Donc, effectivement, le revenu médian, il est de l'ordre de 70 000 dollars, qui sont à comparer aux 40 000 euros.
Donc, ça veut dire qu'un Américain, a priori, gagne beaucoup plus.
Alors, il gagne plus, effectivement. Bon, d'abord, il y a une histoire de parité entre l'euro et le dollar, mais évacuons ça. Il y a aussi, principalement, le fait qu'un certain nombre de prestations sociales sont servies aux Français. Alors, ils payent des impôts, les Français, mais en contrepartie, ils ont une assurance maladie, ils ont une école qui est gratuite, alors qu'aux États-Unis, c'est moins gratuit dans le sens où il peut y avoir un service de base gratuit, mais vous êtes obligé de payer ensuite pour avoir un certain nombre d'éléments complémentaires. Si on regarde la part de revenus que la moitié la moins riche a aux États-Unis, en fait, de revenus total aux États-Unis, elle est comparable à celle de la France, c'est autour de un peu plus de 40%. Ce qui est intéressant aux États-Unis, donc c'est une fois qu'on a annuler mentalement ces différences qui tiennent surtout à la structure des dépenses socialisées. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que on a une distribution des revenus qui est beaucoup plus inégalitaire dans le haut de la distribution. Et on atteint à des montants qui sont tout à fait considérables. Vous voyez, par exemple, le 1% le plus riche aux États-Unis, les 1% les plus riches, ils ont un revenu qui est supérieur à 1 million de dollars. Et les 0,1%, ils ont un revenu qui est supérieur à 4 millions de dollars. Si on compare les 0,1% en France, ils ont un revenu qui est de l'ordre de 1 200 000 euros. Et donc, il y a un rapport de 1 à 3, 1 à 4 entre un très riche français et un très riche américain. Ça change beaucoup de choses. En particulier, ça change complètement le rapport à la domesticité. Mmh. Quand vous êtes un ménage très riche aux États-Unis, vous pouvez payer un professeur d'université pour éduquer vos enfants. Ce qui n'est pas concevable en France. C'est-à-dire qu'en France, même un ménage très riche n'a pas les moyens d'embaucher...
Pourtant, un professeur d'université, ça coûte de moins en moins cher.
Oui, mais ça coûte de moins en moins cher.
J'ai un professeur d'université en face de moi.
Ça coûte quand même à peu près, aux États-Unis,
oui,
150 000 dollars.
C'est trois fois ce que c'est tout en France. Hein,
oui, mais c'est quand même un...
Ben, il faut rappeler pour les auditeurs qui ne connaissent pas la grille de salaire d'un professeur d'université qu'un maître de conférence est embauché à quoi 1 400 euros par mois,
ah,
à peu
non,
près.
Un peu plus, quand même.
Un peu plus.
Ouais.
Bon.
C'est plus proche de 2000 euros que
vous parlez en brut, pas en net.
Ah, ouais.
Vous parlez en brut, pas en net du tout.
Mais donc, ça fait cette différence quand même considérable entre la France et les États-Unis sur cette question de la domesticité, qui est un phénomène dans lequel on n'a pas encore mis le doigt en France. Remis le doigt, puisque...
Et puis juste, pour rebondir sur les inégalités, on s'aperçoit que les inégalités de patrimoine ont réaugmenté depuis les années 80, mais les inégalités de revenus, c'est encore pire. Hein,
explosif.
Explosif.
Oui.
Merci en tout cas à tous les deux. Merci à Xavier Timbaud de l'OFCE. Merci Lucas Rondel, professeur associé à l'École d'économie de Paris et directeur de recherche au CNRS.